Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30, en direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Je façonne...
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025. Voici donc la chronique du groupe Fred Zeller, dans laquelle je vais aborder une sorte de compte-rendu du meeting laïque qui s'est tenu à Paris le 6 décembre dernier. Je vous en ai parlé dans les précédentes chroniques et je vous ai annoncé donc la semaine dernière que j'évoquerai les principales interventions qui ont été faites dans ce meeting. Donc c'était une journée de mobilisation laïque importante. Tout le mouvement laïque authentique était là, avec la libre pensée, tous ensemble, pour rappeler que la laïcité et la loi de séparation de 1905 sont des lois de liberté et non d'interdit. Loi de liberté de 1905 contre loi liberticide de séparatisme. Les laïcs ont choisi la liberté contre la répression et le racisme. Ils étaient tous là et ont pris la parole. La vigie de la laïcité, Nicolas Cadenne, Valentine Zuber et Daniel Verbin. La Fédération nationale de la libre pensée, Benoît Steckenberger et Pierre-Yves Modicom. La Ligue des droits de l'homme, Emmanuel Jordan, Chartier et Daniel Boitier. La Ligue de l'enseignement, Hélène Lacassagne. L'Union rationaliste, Emmanuel Huisman-Perrin. Solidarité laïque, Anne-Marie Arster et Michel Debon. Le Conseil national des associations familiales laïques, le CNAFAL, Jean-Marie Bonnemère. La Fédération syndicale unitaire, Grégory Frakowiak. La Confédération CGT Force ouvrière, Patricia Devron. La FNECFP Force ouvrière, Confédération FO, a parlé aussi pour ces deux structures. La Confédération CGT, Gérard Rey. La FERC CGT, Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture, Charlotte Van Bensien, pardon. La FERC CGT a parlé aussi au nom de l'Union syndicale CGT de l'Éducation nationale. Sud Éducation, Théophile Pousseau-Djagenac. Le SEUNSA, Marie-Laure Tirel. Émancipation tendance intersyndicale, Quentin Dauphiné. Les Rites unis de Memphis Mizraïm, François Boursier. L'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Elsa Walter. L'Association des amis de la Commune de Paris, Sylvie Brabant. Coudes à coudes, Mornia Lapsi. Mornia Lapsi, dont j'avais lu une chronique il y a quelques mois. La Marche des solidarités, Mariama Sibidé. Association internationale de la libre pensée, Christian Echen. Humanist International, Yves Ander. Rob Boston, Américains unis, pour la séparation, États-Unis. ARS Rodriguez, ancien député socialiste du Portugal. Keith Porceous-Wood, expert international à l'ONU. Une jeune représentante de la vigie de la laïcité a lu, à la fin du meeting, la déclaration commune des 6 associations organisatrices de la journée laïque du 6 décembre 2025. Celle-ci a été publiée en tribune dans Le Monde du soir, daté du 7 décembre 2025. La grande salle, on reviendra tout à l'heure sur cette déclaration que je vous lirai bien évidemment. La grande salle de spectacle Eugène Hénaff de la Bourse du Travail était pleine à craquer et de 14h30 à 17h45, le public a écouté de manière studieuse et passionnée les différentes interventions de tout ce que l'on compte de l'authentique mouvement laïque de ce pays. Le mot d'ordre d'abrogation de la loi Debré a été scandé massivement comme une exigence laïque. Le matin du 6 décembre 2025, le colloque académique de la vigie de la laïcité a eu lieu à la Grande Loge de France dans le Grand Temple Franklin Roosevelt. Celui-ci était plein. Une quinzaine de contributions de haut niveau sur la loi de 1905 et sur la séparation laïque dans plusieurs pays ont été prononcées. Il a été ouvert par un message en visioconférence de Jean-Louis Bianco, président fondateur de la vigie de la laïcité. Puis, entre autres, Valentine Zuber, présidente, Philippe Portier, Nicolas Cadenne et Jean Bobéro, membres de son conseil d'administration, se sont exprimés. Les participants ont été accueillis par Dominique Loiseau, délégué régional et responsable de la culture de la Grande Loge de France. Denis Moscovici, délégué à la laïcité de la Grande Loge, a ensuite lu un message de bienvenue et donnant la position de l'obédience sur la laïcité comme des lois de liberté et de tolérance de Jean-Raphaël Noton, grand maître de la Grande Loge de France. Voilà. Donc ça, c'était le compte-rendu succinct de cette importante mobilisation laïque qui s'est tenue donc le 6 décembre dernier. Et je vais vous lire donc trois interventions. On va voir selon le temps, comment le temps s'écoule dans cette chronique. Et je terminerai par la déclaration donc adoptée par l'ensemble des organisations et associations qui ont soutenu cette initiative. Alors tout d'abord, le discours de Pierre-Yves Bodicombe, secrétaire général adjoint de la Libre Pensée. Le meeting d'aujourd'hui est un grand mouvement de clarification. Il donne à voir la réalité du mouvement laïque. C'est un mouvement social et démocratique, profondément attaché aux libertés individuelles et collectives, aux droits sociaux. C'est un mouvement antiraciste et profondément international parce que sa cause est universelle, celle de la liberté humaine et de l'égalité de toutes et tous. En creux, ce rappel aux fondamentaux montre aussi l'ampleur des reniements politiques sur les questions laïques et républicaines ces dernières décennies, l'ampleur de la régression vers le chauvinisme autoritaire et vers les idéologies subventionnées, qui sont toujours des idéologies d'État. Tous ces reniements législatifs sous la Ve République procèdent d'un seul précédent, la loi de Bray de 1959 qui a instauré le financement public de l'enseignement privé catholique. La loi de Bray a été adoptée malgré l'opposition de tous les défenseurs de la République laïque. Elle représente le pacte d'argent entre l'Église et le pouvoir gaulliste, le pacte qui a rendu possible toute la régression anti-laïque ultérieure. L'État et les collectivités sont aujourd'hui les premiers financeurs de l'enseignement religieux à hauteur de 12 milliards par an, selon les estimations les plus fiables. Car bien sûr, ces transferts sont très difficiles à pister. C'est en commençant par l'école que la Troisième République s'est faite laïque. C'est en commençant par l'école que la Cinquième s'est défaite laïque. La confusion politique de ces dernières années n'a pas épargné la question de l'abrogation de la loi de Bray. Le défaitisme semblait parfois de mise. L'enseignement privé, apparemment, était trop gros pour être résorbé. Il fallait se battre pour une meilleure application de la loi de Bray, notamment en matière de contrôle. Mais l'absence de contrôle pour les écoles catholiques n'est pas un dysfonctionnement de la loi de Bray, c'en est le cœur. Ponctuellement, il a même pu arriver que ce défaitisme prenne les atours d'un radicalisme de façade. Plus laïque que moi, tu meurs, mais sans aucune proposition stratégique, si bien qu'à la fin, aucune perspective de sortie du statu quo n'émergeait. Les avocats d'une certaine laïcité, prétendument intransigeante, se retrouvaient ainsi à tenir la chandelle lors des dîners entre les princes de l'Église et ceux d'une république mal nommée. Laïcisme bruyant dans les soirées en ville, mais dans le travail quotidien, impuissance organisée et finalement complaisance pour l'Église. Personne ici ne mange de ce pain-là. Grâce aux errements des derniers gouvernements, les masques sont tombés et ici aussi la clarification est advenue. Un collectif réunissant de nombreuses organisations présentes ou excusées aujourd'hui a élaboré un plan de sortie de la loi de Bray à l'initiative de la Libre Pensée. Ce plan de sortie ne consiste pas à se perdre en mesures prophylactiques censées mener un jour à l'abrogation. Il prend au contraire l'abrogation comme point de départ et déroule ensuite les dispositions transitoires grâce auxquelles l'école publique montera en puissance pour accueillir la quasi-totalité des élèves actuellement scolarisés dans le privé, tout en proposant des solutions pour les actuels salariés de l'enseignement privé. En d'autres termes, il ne s'agit pas de persécuter l'enseignement privé pour le faire maigrir avant d'abroger la loi. Il s'agit d'abroger la loi en se donnant les moyens de résorber ensuite le poids démographique du privé. Ces dispositions transitoires dureront 6 ans. Commencer par l'abrogation, c'est aussi mettre la loi à l'abri d'un changement de majorité. Si la loi de Bray est abrogée et que la sortie passe par des dispositions transitoires, un gouvernement allié d'Église devrait reprendre le dossier à zéro et refaire voter la loi de Bray pour faire marche arrière. Placer l'abrogation en fin de cycle, c'est au contraire compromettre tout le projet à la première hésitation venue. Il n'y a pas d'autre chemin vers la liberté que l'abrogation immédiate. La République ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Cela vaut aussi pour les associations diocésaines et les écoles congrégationnistes. Alors, fonds publics pour l'école publique, fonds privés pour l'école privée, et vive l'école de la liberté, l'école laïque. Et maintenant, je passe au discours de Benoît Schneckenburger, président de la Libre Pensée, depuis donc le dernier congrès de la Fédération nationale des Libre Pensées, en août dernier. C'est avec beaucoup d'émotion et de combativité que nous voilà réunis cet après-midi pour ce meeting unitaire. Après les riches débats de cette matinée organisés à l'initiative notamment de la Vigie de la laïcité et accueillis par la Grande Loge de France, nous voici réunis pour faire vivre l'esprit laïque. La Fédération nationale de la Libre Pensée a été depuis 1847 de tous les combats pour mettre fin aux prétentions des religions, quelles qu'elles soient, pour régir la loi commune. La Libre Pensée prit une part essentielle dans le vote de la loi de séparation avec Ferdinand Buisson, qui la présidait depuis 1902, où Aristide Briand et Jean Jaurès en étaient membres. Que de chemin parcouru pour que la liberté de conscience et d'expression consacrée par les articles 10 et 11 de la Déclaration de 1789 soit accomplie dans le droit commun. Il a fallu revenir sur toutes les prétentions cléricales, de la naissance à la mort, à s'immiscer dans nos vies. Il a fallu séparer les cimetières, les écoles et le Parlement des Églises avec fermeté face à une Église rétrograde envers les idées d'émancipation individuelle. La loi de 1905, toute la loi, en est l'aboutissement. En pleine affaire Dreyfus, quand l'Église et la réaction ne cachent pas leur antisémitisme, elle a été la loi mettant fin au risque de guerre civile. Elle est la loi de la liberté, celle des consciences, punissant toute discrimination envers les opinions, et par conséquent, elle protège réciproquement le libre exercice des cultes. Elle est enfin une loi profondément démocratique, en ceci qu'elle fait de la volonté générale l'origine de la loi, et non une révélation qui ne regarde que les seuls croyants. Que de chemin parcouru donc, mais que de recul en même temps. Le colonialisme ayant refusé de l'appliquer dans les départements, la République conciliante, après la boucherie de 1914-1918, a cru s'attacher à la hiérarchie catholique en refusant d'abroger les concordats. Cela n'a pas empêché les plus hautes autorités ecclésiastiques de se vendre aux traites pétains. Au XIXe siècle, l'école libre était le slogan des libres penseurs qui voulaient l'arracher à l'endoctrinement religieux. Après tant de reniements et de cadeaux, de Debré à Blanquer, l'école publique est ravagée et les écoles privées sous contrat détournent chaque année des milliards de subventions publiques. Nous réclamons encore et toujours l'abrogation de la loi Debré. Le pire pourtant est devant nous. La manipulation de l'esprit de la laïcité atteint des sommets. L'extrême droite, bien vite dédiabolisée par des apprentis sorciers, en fait son cheval de bataille contre nos compatriotes musulmans. Alors que par définition, toute religion révélée prétend que ses valeurs l'emportent sur celles temporelles, seuls les musulmans sont accusés de séparatisme. De loi de défense des libertés, la laïcité passe pour répressive, tant pour ceux qui la manipulent qu'aux yeux, notamment des plus jeunes, qui se voient stigmatisés. Aujourd'hui, pour la libre pensée, l'enjeu est net. Il faut redonner à la laïcité ses principes émancipateurs. La loi de séparation de 1905 n'est pas la loi dite séparatisme. Il est urgent d'abroger la loi du 24 août 2021. Elle met sous tutelle les associations cultuelles, contrairement à l'article 2 de la loi de 1905. Elle porte atteinte à la liberté d'association en élargissant les motifs de dissolution administrative des associations loi de 1901. Le combat pour la démocratie et la liberté de penser a accompli un pas décisif en 1905. Il est encore nécessaire de le mener. À bas la calotte et vive la sociale. Et donc, le troisième discours dont je voulais vous faire part, c'est celui de Christian Eschen, porte-parole de l'Association internationale de la libre pensée, dont je rappelle qu'elle a été fondée à Oslo en 2011. Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte, dit donc Christian Eschen, le salut fraternel de l'Association internationale de la libre pensée, reconstituée à Oslo en 2011. Cette internationale de la libre pensée rayonne sur tous les continents et a une représentation permanente à la Commission internationale des droits de l'homme, à l'ONU, ainsi qu'à l'Organisation internationale du travail, le BIT, et une démarche est en cours pour qu'elle soit aussi représentée au Conseil de l'Europe. Elle vient de tenir son 9e congrès mondial pour renforcer les trois axes de ses campagnes permanentes dans le monde. Œuvrer à la défense de la séparation des églises, religions et de l'État là où elle existe et la conquérir quand elle n'est pas encore mise en œuvre. Agir contre le financement public des religions et des cultes. être aux côtés des victimes de tous les clergés et des religions pour obtenir justice et réparation pour elles. Notre international est ainsi intervenu récemment à l'ONU pour que celle-ci, ce qu'elle a fait, exige du gouvernement français qu'il agisse enfin pour en finir avec cette barbarie que sont les crimes sexuels de l'Église catholique. Rien qu'en France, la propre commission de la Conférence des évêques de France a fixé à 330 000 le nombre de ces victimes. Nous œuvrons, sur le plan international, avec des associations de victimes qui sont de plus en plus nombreuses à agir avec la libre pensée pour obtenir justice et réparation. Nous sommes aussi des pacifistes internationalistes contre toutes les guerres, et notamment contre la guerre génocidaire que mènent les fascistes sionistes israéliens actuellement à Gaza. Notre association internationale est intervenue à la 113e session de l'OIT pour dénoncer cela et exiger que cette barbarie s'arrête enfin. Parce que nous sommes contre la guerre, nous sommes aussi contre la militarisation des sociétés. Je pense, dit donc Christian Eschenne, que personne ici n'a l'oreille d'Emmanuel Macron. Mais enfin, si quelqu'un pouvait lui dire que jouer aux petits soldats quand on est enfant, pourquoi pas? Mais il y a un moment où il faut grandir. La couleur kaki semble être la seule qu'ils connaissent, et du SNU au service militaire, faire marcher au pas la jeunesse semble être sa seule véritable préoccupation. Comment ne pas constater que partout dans le monde, et aussi dans notre pays, un choc se prépare entre les janissaires du totalitarisme et de la guerre et les partisans de la liberté, de la justice et de l'émancipation, de la tolérance mutuelle et de la laïcité, qui ne peuvent être garantis que par la séparation des Églises et de l'État. La paix ou la guerre, la liberté ou le totalitarisme, le progrès ou la réaction, tels sont toujours les choix qui sont devant l'humanité pensante. Et chacun doit choisir son camp. C'est pourquoi, dans notre pays, la libre pensée, avec vous tous qui êtes ici dans cette journée de mobilisation laïque, nous avons choisi la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, qui est une loi de liberté, contre la loi dite séparatisme du 24 août 2021, et qui n'est qu'une loi d'oppression des consciences, d'interdits toujours plus nombreux et de répression croissante des opinions, y compris religieuses, pour reprendre l'expression contenue dans l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Comme le disait Hannah Arendt, au fond, il n'y a qu'un seul véritable droit de l'homme, c'est le droit d'avoir des droits. Et cela est revendiqué partout dans le monde, et c'est pourquoi les relations, les notions de liberté des consciences, de laïcité, de séparation du religieux et du temporel sont présentes dans de très nombreuses constitutions à travers le monde, bien plus qu'on ne le pense généralement, car la liberté est une aspiration universelle. Mais partout dans le monde aussi. Il y a des totalitaires qui refusent cela à l'humanité et qui veulent faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Mais ce sera impossible, car l'humanité n'aurait plus alors aucun sens et se renierait. La libre pensée, la vigie de la laïcité, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, la Ligue des droits de l'homme, Solidarité laïque, les associations ont organisé cette journée de mobilisation laïque qui s'est faite en deux temps, le matin pour réfléchir, l'après-midi pour agir, unifiant ainsi l'esprit et la matière, tiennent à remercier chaleureusement et fraternellement toutes les associations, les syndicats et obédiences maçonniques qui ont été présentes et qui ont œuvré à nos côtés au succès de cet événement. Comme vous pouvez l'imaginer, une journée comme celle-ci coûte quelques sous à organiser. C'est pourquoi nous allons solliciter votre générosité à la fin pour que vous marquiez votre solidarité agissante en versant dans les drapeaux qui seront à la sortie. Donc Christian Eschenne parle évidemment de la sortie donc du meeting qui s'est tenu le 6 décembre dernier à Paris, à la Bourse du Travail, salle ENAF. Merci à tous. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et comme on disait naguère, quand le peuple se soulevait pour défendre ses droits, ce n'est qu'un début, le combat continue. Et il va continuer, car rien ne peut arrêter la marche du progrès et de la liberté. Et on n'a pas fini d'entendre dans les villes et les campagnes, les entreprises et les chantiers, les écoles et les universités, le mot d'ordre des combattants de la liberté humaine, ni Dieu ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Voilà, donc ça, c'était le discours de Christian Eschenne au nom de l'Association internationale de la libre pensée, dont il est l'un des porte-parole. Voilà, et donc je voudrais terminer sur cette relation, ce compte-rendu de cette mobilisation du 6 décembre par la déclaration, donc qu'on appelle déclaration du 9 décembre 2025, qui est le travail, le produit du travail des organisations laïques que j'ai citées, et notamment la Vigie de la laïcité, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, Solidarité laïque, la Libre Pensée et l'Union rationaliste. Et cette déclaration est titrée « Retrouver le sens de la laïcité ». La célébration du 120e anniversaire de la loi de séparation et des églises de l'État du 9 décembre 1905 donne aux associations signataires de ce texte l'occasion de rappeler combien la laïcité est essentielle à l'agencement de la vie démocratique. Elles rejoignent ainsi l'intention de la Constitution qui en a fait, en la plaçant au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, l'un des principes fondateurs de la République. Reliant la France à la communauté des nations démocratiques, la laïcité trouve son origine dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En fixant, citation, « le principe de toute souveraineté dans la nation », article 31, la Déclaration affirme l'autonomie du pouvoir politique à l'égard des lois divines, en affirmant que, nouvelle citation, « nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » C'est l'article 10. Elle permet à chacun de pouvoir choisir, en toute indépendance, ses propres croyances ou convictions. Se manifeste là une rupture décisive avec l'ordre d'Ancien Régime, fondé sur la primauté et l'unité de foi. Il est revenu à la législation de la Troisième République de confirmer le dispositif établi en 1789. La loi du 9 décembre 1905, dont le Conseil d'État a pu rappeler qu'elle était la clé de voûte de la laïcité française, couronne la construction laïque en instituant la séparation des Églises et de l'État. Le texte, s'il contient des dispositions techniques concernant l'organisation interne des cultes, comporte surtout deux éléments fondamentaux. Il consacre d'abord la liberté de conscience, considérée dans sa double dimension individuelle et collective. Celle-ci apparaît dès l'article 1er. La liberté appelle ainsi l'égalité. La loi protège identiquement les croyants et les non-croyants, sans qu'on ne puisse discriminer quiconque à raison de ses opinions religieuses ou convictionnelles. Ensuite, en affirmant dans son article 2 que la République ne reconnaît de salariés ni ne subventionne aucun culte, la loi affirme la neutralité de l'État. Ce dernier doit se tenir à égale distance de toutes les conceptions englobantes du bien afin de préserver le droit à l'égalité, à l'égale liberté de conscience des citoyens. Or, au cours des trois dernières décennies, le régime de laïcité a subi un dévoiement de ses principes originels. Il était hier un dispositif de protection de la liberté individuelle. Il est devenu un appareil de défense de la prétendue « identité nationale », entre guillemets, évidemment. À la laïcité de l'autonomie s'est substituée celle de la surveillance. Issue du refus d'accepter l'ouverture de la société actuelle à la pluralité de ses composantes culturelles, en contrant ainsi l'éthique universaliste de la République, elle révèle une conception identitaire et parfois ethnique de la nation. Ce nouveau modèle a pris une nouvelle forme juridique à travers une succession de lois et de règlements qui ont trouvé leur consécration limitative dans la loi du 24 août 2021 visant à conforter le respect des principes de la République. Cette législation inédite a introduit, en rupture avec les principes de 1905, une double mutation. Jusque-là, l'impératif de neutralité ne valait que pour les espaces et les agents de l'État, l'espace social étant, en revanche, et sous réserve des exigences de l'ordre public, une zone d'expression ouverte à l'expression de la pluralité des convictions. Or, en témoignent certaines propositions de loi récentes, on réclame désormais l'extension de la règle de la discrétion en matière religieuse aux citoyens ordinaires. Ensuite, la nouvelle laïcité, entre guillemets, a, par un mouvement parallèle, réduit la sphère de la liberté, en agitant le chiffon rouge du séparatisme, en faisant valoir auprès de certains de nos compatriotes leur devoir d'émancipation, entre guillemets, en faisant en cela le gardien des bons comportements. L'État est entré sur les questions religieuses et convictionnelles dans des domaines qu'il laissait jusque-là entièrement libres. Il intervient ici en réglementant le port du vêtement. Il soumet les collectivités locales à des contrôles inédits. Il réduit le champ d'autonomie à la fois des associations cultuelles et des associations ordinaires. Malgré le principe de séparation, la loi du 24 août 2021 va jusqu'à offrir la possibilité au préfet de refuser à certaines la qualité d'association cultuelle, les obligeant par ailleurs à de lourdes démarches administratives renouvelables tous les 5 ans, menaçant ainsi leur pérennité. Faut-il se résigner à cette dérive autoritaire ? C'est au contraire à la résistance que veulent appeler les signataires de ce texte. Leur idée est que cette nouvelle interprétation vient accentuer la défiance au sein de la société et empêcher un vivre ensemble harmonieux. Sans nier, certes, l'importance d'intégrer les citoyens dans un espace public partagé, organisé autour du respect de la liberté d'autrui et de la recherche de l'intérêt commun, ils appellent à rétablir la laïcité sur ses bases historiques en retrouvant la vision originelle qui en faisait un système de promotion de la liberté et non de surveillance de l'opinion. Dans cette perspective, il s'agit de répondre à 3 objectifs. D'abord, refaire droit à la liberté de conscience. Chacun doit pouvoir exprimer jusque dans l'espace social ses propres convictions et croyances sans qu'on lui impose, au nom d'un ordre moral que l'État se chargerait de définir, une quelconque invisibilité sociale ni une artificielle homogénéité idéologique. Ensuite, reconstruire l'indépendance de la sphère politique. L'un des grands motifs de la loi de 1905 a été de placer l'État en dehors de tout contrôle des églises. Nous souhaitons renouer avec cette visée qui est la condition d'une action publique autonome laissée, loin de toute soumission aux diverses cléricatures, aux seules déterminations de la délibération civique. Enfin, renouer avec l'idée de droit social. Au moment de la délibération de 1905, plusieurs défenseurs de la loi avaient affirmé, tel Jean Jaurès, que, citation, « la République ne resterait laïque qu'à la condition d'être sociale ». Fin de citation. C'est là aussi un point d'ancrage de cette déclaration. Il ne peut y avoir de réelle liberté indépendamment de l'amélioration des conditions matérielles dans lesquelles se déploient les existences individuelles. Retrouvons le sens de la laïcité. Battons-nous pour une laïcité de liberté qui se nourrit de fraternité et de bien commun. Assurons-lui un avenir. Et donc les signatures sont celles de Jean-Louis Bianco, président honoraire de la Vigie de la laïcité, Christian Echen, secrétaire général de la Libre Pensée, Anne-Marie Arster, présidente de Solidarité laïque, Emmanuel Huisman-Perrin, responsable laïcité à l'Union rationaliste, Hélène Lacassagne, présidente de la Ligue de l'enseignement, Nathalie Théot, présidente de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, c'est donc cette déclaration que vous pourrez bien sûr retrouver sur les différents sites de la Libre Pensée, que ce soit celui de la Fédération Nationale ou le site du groupe Fred Zeller pour ce qui concerne la Dordogne, avec tous les éléments de compte-rendu de cette mobilisation laïque importante qui a eu lieu donc le 6 décembre. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette chronique et vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique, bien sûr, lundi prochain, toujours à 11h30 en direct sur Radio Libre en Périgord. Et je voudrais donc, à la fin de cette chronique, remercier Antoine pour avoir assuré la gestion technique de cette chronique et à notre jeune stagiaire qui est ici pour une semaine à Radio Libre en Périgord, Elio, auquel je souhaite donc de passer une bonne semaine dans les coulisses de la radio. À la semaine prochaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
elle tient ton glaive bleu.